Bon, bienvenue de nouveau. Après ces deux présentations sur les intersections entre les mouvements humanitaires et la médecine dans les contextes espagnols et belges, nous avons le plaisir de compter aujourd'hui parmi nous Véronique Arouel, maître de conférence à l'Université Paris 8, spécialiste de l'histoire du droit humanitaire de la Croix-Rouge. Et Véronique Arouel a publié parmi d'autres ouvrages Histoire de la Croix-Rouge, un grand texte du droit humanitaire, Traité des droits humanitaires et Genève Paris. Et un livre publié avec l'aide de la société Henri Dunant et le Comité international de la Croix-Rouge. Aujourd'hui, elle va nous aider à comprendre le développement du mouvement humanitaire en France lors du débat sur le statut des médecins militaires qui a eu lieu entre 1870 et 1814 après la défaite de la guerre franco-allemande. J'invite tout de suite à Véronique Arouel à prendre la parole.
Je vous remercie. Alors, jusqu'à la fin du 19e siècle, dépendant de l'intendance, les médecins militaires sont placés dans une situation d'infériorité par rapport aux officiers de l'armée de terre. La tutelle de l'intendance est même réaffirmée en 1836, alors que le service de santé de la marine a obtenu son autonomie l'année précédente. Les médecins militaires sont désabusés, insatisfaits de cette situation, qui va être un sujet de discorde jusqu'à l'adoption de la loi du 16 mars 1882, accordant une autonomie partielle au service de santé des armées, laquelle sera complétée par la loi du 1er juillet 1889, instituant une autonomie complète. Toutefois, même après cette date, les médecins militaires demeureront longtemps encore des officiers moins estimés que ceux des armes. Alors, évoquons dans un premier temps donc, des médecins militaires insatisfaits de demeurer sous la tutelle d'une intendance jugée incompétente. Après la chute du Second Empire, les nouvelles autorités politiques souhaitent donner satisfaction aux médecins militaires au mal de considération. Et cela d'autant qu'il s'agit aussi pour elles de reprendre une démarche commencée en 1848 par leurs amis politiques. Toutefois, c'est avant tout les résultats sanitaires catastrophiques de l'armée qui les y obligea. Mais cela va être long et difficile. Alors en effet, les médecins militaires sont consternés du nouveau constat de l'inefficacité du service de santé des armées. Déjà en 1869, le docteur Chenu ose demander au sujet de la tendance si ce n'est pas, je cite, « cette organisation défectueuse à tous les points de vue et aux résultats qu'elle donne qu'il faut attribuer une grande partie de la mortalité des armées ». En effet, si l'Angleterre n'a pas fait de même, si l'Angleterre a tenu compte de la désastreuse expérience sanitaire de la guerre de Crimée, la France n'a pas fait de même. D'ailleurs, en 1870, le commandement et l'administration n'ont guère tenu compte des opinions des médecins militaires. Au moment de partir au front, les régiments et les ambulances manquent de brancardiers. Les ambulances sont trop lourdes et trop peu nombreuses. Les évacuations et le traitement des malades ne sont pas organisés. Les soldats français n'ont pas reçu une deuxième vaccination contre la variole, laquelle a engendré plus de 23 000 décès, et 200 000 malades. Parallèlement, très présente, 16 ambulances de la société de secours ont contribué à accroître la compassion envers les blessés dans l'opinion publique, tandis que l'armée demeurait encore relativement imperméable à de tels sentiments. Toutefois, si la société française de secours a confié ses ambulances à quelques médecins et chirurgiens de renom, ils n'ont reçu aucune directive de l'intendance ou du commandement. De plus, souvent par ignorance, mais aussi pour marquer leur opposition à la Convention de 1864, Les médecins du service sanitaire des armées n'utilisent pas le son de la Croix-Rouge. Et nombre d'entre eux ont été capturés avec leur matériel. De ce fait, bien souvent, ne sont restés auprès des blessés que les ambulances de la société de secours. Après la guerre de 1870-71, les médecins ont été très nombreux à démontrer les fâcheuses lacunes de l'intendance et à réclamer leur indépendance par rapport à elle. Alors voyons maintenant donc des médecins militaires revendiquant toujours plus haut et fort l'autonomie du service de santé. Aussitôt la guerre terminée, Emmanuel Domenech, aumônier de l'ambulance de la presse, dénonce, je cite, la révoltante incurie de l'intendance. Léon Lefort, qui dirigeait la première ambulance de la société de secours, affirme l'impérieuse nécessité de réformer le service de santé afin qu'il puisse agir seul. Lefort insiste sur le retard de la France par rapport aux autres États. Il dénonce l'absurdité de règlements imposant aux médecins de régiment de demeurer en permanence avec leur corps de troupes. Aussi, pour aller aider leurs confrères et se rendre utiles, sont-ils obligés de transgresser cette obligation. De même, Domenech fustige les règlements empêchant les médecins de tenir compte des découvertes scientifiques pour améliorer les soins dans les hôpitaux auxquels ils sont attachés, car il leur faut pour cela l'aval de l'intendance. Parallèlement, Lefort montre que la direction d'un service de santé ne peut fonctionner correctement qu'en étant dirigé par un médecin ou un chirurgien. Il explique que le décret de Gambetta du 31 décembre 1870 a eu le mérite de mettre la société de secours sur un pied d'égalité avec l'intendance pour la délivrance des brassards blancs à Croix-Rouge et le contrôle des volontaires, en plaçant toutes les ambulances privées sous sa direction. Cependant, il affirme que ce n'est que vers la fin de la guerre que de l'ordre a pu être mis dans le chaos existant grâce au docteur Robin, au professeur Robin, qui a mis un médecin inspecteur à la tête du service médical de chaque réseau d'évacuation des blessés. De son côté, le docteur Armand Desprez, qui a œuvré dans la 7e ambulance de la société secours, demande que la direction d'une ambulance revienne au chirurgien en chef. Alors sans doute la société de secours a-t-elle indirectement servi la cause des partisans de l'autonomie du service de santé militaire. Voulant désamorcer le mécontentement toujours grandissant chez les médecins, sans pour autant déplaire à l'intendance, à l'été 1873, le gouvernement fait voter une loi prévoyant la subordination de chaque service au commandement militaire, l'autonomie des services et l'indépendance du contrôle. Ce texte allait donc dans le sens d'une future autonomie du service de santé. Mais 5 ans plus tard, rien n'avait vraiment changé. Aussi, en 1878, Lefort fait-il sensation en écrivant combien la situation des médecins français est pénible. Il rapporte que lors d'un congrès international à Paris, face à leurs confrères étrangers qui leur montraient leurs expériences et les progrès réalisés, les Français n'ont pu, je cite, que baisser la tête et décliner la responsabilité de l'infériorité de leur organisation. Pourtant, les médecins s'estiment prêts à diriger le service de santé et mettent en avant les notions de l'indépendance de la médecine, de la responsabilité médicale, du droit d'initiative et de la nécessité d'avoir une unité dans la direction du service. Mais on leur rétorque que celui-ci ne représente qu'un auxiliaire consultatif pour recruter, entretenir, guérir ou réformer les soldats. Alors voyons dans un deuxième temps les étapes d'une difficile accession à l'autonomie du service sanitaire des armées et vers une meilleure considération des médecins militaires par l'armée. Commencée donc véritablement en 1873, la marche vers l'autonomie du service de santé des armées n'aboutit donc qu'en 1882, après bien des débats. Toutefois, cette indépendance tant espérée ne sera totale que 6 ans plus tard, en 1889. Et néanmoins, l'égalité de statut entre les officiers de santé et ceux des armes était encore loin d'être admise. Alors, envisageons tout d'abord donc une révolution en deux temps pour le service de santé sanitaire de l'armée et ses médecins, les étapes de l'accession à l'autonomie, donc 1882 et 1889. En 1874, un projet de loi prévoyant l'autonomie du service de santé est présenté à la Chambre des députés, qui toutefois n'en débat pas. Mais adopté au Sénat en 1876, avec quelques amendements, il retourne à la Chambre, qui n'a pas le temps de l'étudier, avant sa dissolution en mai 1877. Aussi, n'y est-il débattu qu'en 1880. Mais la Chambre abandonne le texte après le dépôt d'un contre-projet du ministre de la Guerre, finalement rejeté. Et ce n'est qu'en 1881 que le projet amendé par le Sénat est soumis au vote des députés. Puis il retourne au Sénat, il est de nouveau modifié puis adopté avant de repartir à la Chambre, qui vote enfin le texte le 16 mars 1882. Outre la réaction de rejet des militaires en fonction, l'opposition à l'autonomie du service de santé est principalement venue de certains députés. Selon eux, l'autonomie du service de santé entraînerait les médecins à devenir des administrateurs, or ce n'est pas leur métier. À la Chambre, le débat était donc vif. Auditionné en 1878 par les députés, l'intendant Vigo Roussillon exprime la pensée de nombreux militaires lorsqu'il se prononce contre, je cite, « l'amour immodéré de domination du corps médical ». Il estime en outre que les médecins auraient moins de temps pour exercer leur véritable fonction s'ils devaient diriger le service de santé. Entendu aussi par la Chambre, le pharmacien inspecteur Coulier insiste, je cite, sur le mauvais vouloir dont les médecins jugés trop arrogants font preuve à l'égard de ses confrères. Ce point négatif des pharmaciens est partagé par les officiers d'administration qui accusent les médecins de se croire omnipotents. En revanche, toujours en 1878, le médecin inspecteur Leguest fustige, je cite, l'immixtion de l'intendance dans l'hygiène et la médecine des hôpitaux, tout en se prononçant contre l'attribution de l'ordonnancement des dépenses aux médecins, car il pourrait être dangereux, estime-t-il, de leur donner un domaine si sensible et qu'ils ne connaissent pas. Et comme lui, les médecins civils élus à la Chambre défendent le principe d'une autonomie limitée du service de santé des armées. Le médecin inspecteur général du service de santé de la marine, Jules Rochard, est lui aussi intervenu en 1878 à la Chambre en faveur de l'autonomie, car pour lui, la direction d'un hôpital militaire doit revenir au service de santé. C'est le médecin qui est responsable des blessés et des malades hospitalisés, tant pour leur traitement que pour les conditions d'hygiène devant régner dans l'établissement, affirme-t-il. Dans le même esprit, en 1880, le député Larré, ancien chirurgien en chef de l'armée des Alpes, explique l'impuissance des médecins face aux volontés de l'intendance sur les questions d'hygiène, l'utilisation des moyens de ramassage des blessés, leur tri et leur évacuation lors des derniers conflits. Toujours en 1880, Marmottan, médecin civil et député, plaide en faveur du projet de loi qui intéresse, explique-t-il, la sécurité du soldat. puis il insiste sur l'importance des règles d'hygiène. Il explique que le taux anglais de mortalité à la suite d'épidémies a baissé à partir du moment où le service de santé des armées a été confié aux médecins. Et il rappelle que lors de la guerre franco-allemande, l'armée française a été laminée par la variole. En 1881, le sénateur Freycinet parle en faveur d'une autonomie limitée. Il estime en effet qu'il faut agir par étapes. Et c'est Freycinet, devenu ministre de la guerre, qui fera voter la loi de 1889, pratiquement sans débat et en très peu de temps. Ainsi, dans cette affaire, le gouvernement et le législateur ont agi un peu comme ils l'ont fait pour le service de santé de la marine. Autonome depuis 1835, ce n'est qu'en 1890 qu'il obtiendra une autonomie complète. La loi de 1882 développe donc celle de 1873 et organise une déconcentration des pouvoirs administratifs du ministre de la guerre au profit des commandants de régions militaires. Le service de santé fait partie des services de soutien de l'armée aux côtés de ceux de l'artillerie, du génie, des poudres et de l'intendance, laquelle apparaît désormais comme un service comparable aux autres. Chaque service est maître de la mise en œuvre des moyens dont il dispose en fonction des directives du commandant qui détermine sa mission et ses objectifs. La loi attribue la responsabilité du service sanitaire aux officiers de corps de santé dans les régions militaires, les dépôts d'approvisionnement, les hôpitaux et les formations sanitaires de campagne. Mais la loi n'accorde donc aux médecins militaires qu'une autonomie souvent jugée fictive sur le personnel d'exécution, car l'intendance continue à noter les officiers d'administration et à contrôler leur gestion. Et cela fait perdre beaucoup d'autorité aux médecins-chefs. D'où la nécessité de compléter la loi par celle du 1er juillet 1889 qui accorde donc une autonomie complète au service de santé des armées. Toutefois, l'autonomie du service de santé, l'égalité de traitement avec les officiers d'armes ont été très difficiles à faire reconnaître pour les médecins. Se sentant mieux à même d'exercer leurs fonctions, le nombre des médecins militaires passe de 1300 en 1882 à 1910 en 1914. Dès 1882, l'école du Val-de-Grâce a étendu ses enseignements car la médecine progresse vite du fait notamment de la révolution pasteurienne. En 1887, une chaire de chirurgie spéciale concernant les yeux, les oreilles, le nez et le larynx est inaugurée. L'année suivante, le premier laboratoire de bactériologie d'armée est ouvert et un enseignement en la matière est créé. Puis, en 1907 et 1913, des cours de stomatologie et de radiologie seront organisés. Parallèlement, pour aider les médecins à assurer la direction du service de santé des armées, un décret de 1887 décidait de la création d'une chaire d'administration et de législation militaire. Alors, malgré ces progrès indéniables, le service de santé a dû s'affirmer entre 1889 et 1914. En 1889, les médecins ne sont d'ailleurs pas entièrement satisfaits de leur sort. L'égalité entre les officiers d'armes et ceux du service de santé a du mal à entrer dans les mœurs. Toujours perçus comme des officiers de seconde zone, ils ont encore des difficultés à imposer leur autorité à la troupe et dans le corps d'armée. En outre, les médecins doivent attendre 1892 pour que certaines mesquineries du règlement de 1883 régissant leurs fonctions soient enfin supprimées. En effet, le texte de 1883 mentionnait
notamment que l'inspecteur du service de santé des armées en mission avait certes droit à un planton à la porte de son hôtel, mais d'un grade inférieur à celui attribué à l'officier général, dont il avait pourtant la correspondance de grade. De même, le règlement prévoyait que quand l'inspecteur du service de santé se présentait à la caserne, le poste de police n'avait pas à lui rendre les honneurs. Ainsi, les médecins demeuraient des officiers moins bien traités que ceux des armées. De même, l'uniforme et les insignes de grade étaient simplifiés pour les membres du service de santé, et ils le resteront pendant des années. Par ailleurs, entre 1883 et 1885, les bons résultats sanitaires obtenus lors de l'expédition Tonkin ont certainement compté au moment du vote de la loi de 1889. En effet, seule une épidémie de choléra y a sévi. De plus, malgré les difficultés, les blessés ont bénéficié d'évacuations relativement rapides et ont été bien soignés. Et toutefois, le service de santé manquait encore d'assurance. Malheureusement, en 1895 et 1896, pour l'expédition à Madagascar, il n'a pas su obtenir tout le personnel nécessaire et le matériel adapté pour être efficace sur place. Pour certains officiers de santé, le commandement n'avait pas apprécié qu'avant qu'ils partent, la presse reprenne leurs requêtes, lesquelles avaient pourtant été formulées pour que les soldats français bénéficient de mesures appliquées par les Anglais 20 ans plus tôt en Afrique noire. Et de ce fait, alors que le paludisme sévissait dans l'île, aucun moyen prophylactique n'a été utilisé pour s'en préserver. Et sur 15 000 hommes, 6 000 sont morts le plus souvent de paludisme. Or, c'est Alphonse Lavran, médecin militaire et bactériologiste français, inspecteur du service de santé, qui en 1881 a découvert le parasite du paludisme. Et entre 1883 et 1894, il a occupé la chaire d'hygiène militaire et de clinique médicale au Val-de-Grâce. Puis en 1907, il a reçu le prix Nobel de médecine, justement pour ses travaux sur le paludisme. Parallèlement, en cas de guerre, on le sait, la Croix-Rouge prête son concours au service de l'arrière. Et ce médecin militaire n'a pas de relation officielle avec les trois sociétés composant la Croix-Rouge. Sur le terrain, il est amené à en côtoyer le personnel. Le médecin militaire et les sociétés de secours partagent la même sollicitude pour les militaires blessés. Aussi, est-ce souvent à l'une d'elles qu'il remet leurs blessés ayant reçu les premiers soins lorsqu'il doit suivre l'armée. De même, le médecin militaire indique aux sociétés le soldat tuberculeux obligé de quitter les rangs de l'armée sans ressources afin qu'elle s'en occupe. Et par ailleurs, comme elle, il arbore le drapeau et le brassard blanc à croix rouge. Aussi, est-ce bien volontiers que le médecin militaire participe aux travaux des sociétés ainsi qu'à leurs conférences et qu'il en dirige les travaux pratiques. Et c'est ainsi que le médecin militaire peut être perçu, je cite, comme la personnification de l'assistance aux malades militaires, le professionnel expérimenté, écrit le docteur Gilles en 1896. Alors, pour conclure, je dirais que du fait de l'autonomie du service de santé et des bons rapports entretenus par eux avec les sociétés de secours, les médecins militaires ont acquis une liberté leur permettant d'améliorer l'image de leur fonction et surtout de la rendre beaucoup plus utile pour les soldats. Dans le même temps, les médecins militaires ont pu aussi songer à l'avenir. En 1912, la section technique de recherche et d'études du service de santé militaire a d'ailleurs été créée. Turquie entre 1914 et 1918, le médecin militaire est devenu le maître sur le champ de bataille.
Merci beaucoup, Véronique Arouel, de cette présentation. À l'occasion de cette dernière présentation de cette session, j'ai le plaisir d'introduire encore une fois, pour la deuxième fois aujourd'hui, à François Vignon, membre du comité scientifique de cette conférence et un des plus grands connaisseurs du droit international humanitaire du mouvement international de la Croix-Rouge. En cette occasion, il va nous parler du docteur Frédéric Ferrière, une personnalité déjà traitée dans cette conférence par Valérie Lathion, et de sa mission au Monténégro comme délégué du Comité international de la Croix-Rouge, avec Aloïs Humbert et Charles Tess, si je ne me trompe pas, alors que la guerre civile déchirait la Bosnie et l'Herzégovine. Avec sa présentation, François Vignon nous propose quelques clés historiques pour comprendre les vraies motivations de cette mission au Monténégro, ainsi que l'impact qu'elle a eu dans l'évolution de l'action du droit international humanitaire.
Merci beaucoup, Madame la Présidente. Il n'est pas facile de parler du docteur Frédéric Ferrière après l'exposé que nous avons entendu ce matin de Madame Valérie Lathion. Mais nous avons tout de même eu le sentiment qu'il serait injuste de limiter les références au docteur Ferrière à son action dans la guerre de 1870-1871, puisque Frédéric Ferrière va continuer à agir à plusieurs autres occasions et exercer une influence significative sur l'évolution du Comité international de la Croix-Rouge. Par rapport à l'exposé de ce matin, je vous demande de faire un petit saut dans le temps, un petit saut de 5 années. Donc nous avons quitté Frédéric Ferrière en 1871. C'est un jeune homme qui débute ses études de médecine et nous le retrouverons quelques années plus tard au moment de la mission au Monténégro, mission liée à l'insurrection en Herzégovine. De quoi s'agit-il ? L'Herzégovine était une province de l'Empire ottoman, une province dont la majorité de la population était chrétienne et ressentait cette tutelle, et comme c'était le cas dans d'autres provinces de cet empire, il y avait des insurrections périodiques. Celle de 1875 est plus significative, plus importante, et l'insurrection très rapidement s'étend aux pays voisins, aux provinces voisines, la Bosnie et la Bulgarie, qui sont également à l'époque sous la tutelle ottomane. Tout cela provoque une réaction très forte de la Sublime Porte, de l'armée ottomane, et un mouvement, beaucoup de victimes sur place, et un afflux de réfugiés dans les pays voisins, en Serbie, en Autriche même, passablement, ce qui amènera d'ailleurs le comité international à beaucoup vitupérer contre l'inertie de la Croix-Rouge autrichienne par rapport à cette situation, ce qui montre l'évolution de la position du comité international par rapport à celle qu'il avait adoptée quelques années plus tôt à propos des guerres carlistes en Espagne. Et puis, beaucoup de ces réfugiés arrivent également dans le petit état du Monténégro, qui est confronté à une situation très difficile. Et alors, en décembre 1875, le CICR décide d'envoyer une mission au Monténégro. Pourquoi cette mission ? La question pourrait paraître incongrue si on pensait à l'activité du CICR aujourd'hui. Ce serait plutôt la question inverse qui surprendrait si le CICR ne faisait rien. Mais nous devons nous garder d'anachronisme. En effet, entre la création du CICR en 1863 et la Première Guerre mondiale, le CICR n'envoie des missions sur le terrain en vérité qu'à 3 occasions. Et il vaut la peine qu'on s'y arrête parce que cela éclaire cette mission du docteur Frédéric Ferrière dont nous allons parler dans un instant. Qu'à 3 occasions, la première c'est la mission du docteur Appia et du capitaine Van de Velde au Schleswig au printemps 1864. Nous en avons parlé. La seconde est la mission Monténégro en 1875-76. Et la troisième, c'est l'envoi des missions successives. Tout d'abord du docteur Karl de Marval de la Croix-Rouge suisse et ensuite du même Frédéric Ferrière dans les Balkans en 1912-1913 à l'occasion des guerres balkaniques. Soit au total 4 missions sur une période de 50 ans. En outre, on voit que ces missions ne sont pas du tout réparties dans le temps. On en a une tout au début. En 64, c'est Appia et Van de Velde au Schleswig. On en a deux tout à la fin de la période, en 1912-1913. Karl de Marval est ensuite Frédéric Ferrière. Et puis cette mission du Monténégro au milieu de la période. Alors cela nous pose deux questions. La première, pourquoi est-ce que le CICR de l'époque n'estimait pas utile d'être représenté sur le champ de bataille, contrairement à ce qui s'est passé de façon continue depuis la Première Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite, pourquoi ces missions? Sur la première question, le CICR s'est expliqué à plusieurs reprises, et je citerai la position qu'il adopte, qu'il publie dans le bulletin en octobre 1870, donc peu après le déclenchement de la guerre franco-allemande, franco-prussienne, le premier conflit auquel la Convention de Genève fut applicable. On nous a témoigné à plusieurs reprises, quelque étonnement, de ce que nous n'avions envoyé personne pour nous représenter sur le théâtre de la guerre. Mais il est superflu d'expliquer pourquoi nous nous en sommes abstenus. Notre place à nous n'était pas sur les champs de bataille. Nous sommes restés là où notre devoir nous appelait et où notre présence était réclamée par un labeur incessant. Et c'est une position que le CICR va réaffirmer à de nombreuses occasions durant cette période d'un demi-siècle. Donc notre place à nous n'était pas sur le champ de bataille. Cela nous surprend beaucoup. Et évidemment, pourquoi cette politique d'abstention? Eh bien, l'explication est assez simple. Le CICR se base évidemment sur les résolutions de la conférence d'octobre 1863 qui donna naissance à la Croix-Rouge et qui, pour toute cette période, sont les seules bases statutaires du mouvement. Il faudra attendre 1928, la 13e conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie à La Haye, pour que le mouvement se dote de statuts plus élaborés. Donc c'est ces résolutions de la conférence constitutive, dont nous célébrons maintenant le 150e anniversaire, qui marquent le point de départ du mouvement, mais aussi qui définissent les tâches des uns et des autres. Et selon ces résolutions, eh bien c'est évidemment aux sociétés nationales qu'il appartient de seconder les services de santé des armées, c'est aux sociétés nationales qu'il appartient de venir en aide aux blessés. Et le CICR a la conviction que s'il intervenait lui-même dans cette tâche-là, il se départirait de son rôle d'intermédiaire prévu dans la 10e ou d'agent de liaison, la 10e résolution, et qu'il marcherait sur les brisés des sociétés nationales, ce qu'il ne veut à aucun prix. Ce qui nous explique pourquoi, dans les rapports d'activité du CICR, vous ne trouverez aucune mention ni de l'expédition de Louis Appia en 1866 dans la deuxième, troisième guerre d'indépendance italienne, ni de l'expédition du même Louis Appia pendant la guerre de 1870-1871, parce qu'aux yeux du comité, Louis Appia se mêle, malgré ses grands mérites, de choses qui ne le concernent pas, et empiète sur une compétence qui est celle des sociétés nationales. Et encore une fois, le CICR s'explique sur ce point à de nombreuses reprises. Et je dirais tout cela nous met, mais encore plus en évidence, le caractère exceptionnel de la mission qui est confiée au docteur Ferrière au Monténégro. Et alors pourquoi cette mission, ou disons peut-être deux mots, pourquoi les autres missions? Celle au Schleswig en 1864, elle a clairement un caractère exploratoire, et à mon avis, Nonobstant les observations du docteur Appia, elle a un caractère apologétique. Le CICR prépare la conférence diplomatique et il veut faire la démonstration sur place que l'assistance volontaire est possible et que le projet de neutralisation des services de santé est possible. Les deux missions, tout à la fin de la période, en 1912-1913, on retrouve très clairement, si on lit les rapports du docteur Karl de Marval et du docteur Ferrière, on retrouve très clairement ce caractère de mission exploratoire. C'est un moment où le monde est extrêmement inquiet et le CICR partage cette inquiétude. On va d'une crise à l'autre et les gens qui réfléchissent se disent cette succession de crises, il y a eu l'histoire d'Agadir, il y a eu l'histoire de Fashoda, il y en a eu d'autres, mais la plupart étaient évidemment des crises franco-allemandes. Ces successions de crises finiront bien un jour ou l'autre par déboucher sur une guerre générale. Et très clairement, ces missions de 1912-1913 se situent dans cette perspective. Quant à celle au Monténégro, elle répond à un objectif différent. Pourquoi ? Eh bien, je l'ai dit parce que l'insurrection va provoquer au Monténégro un afflux de réfugiés dans cette toute petite principauté, même pas totalement émancipée de la tutelle ottomane, puisque formellement le prince du Monténégro reste sujet de la Sublime Porte. Ça amènera une guerre d'ailleurs tout de suite après. Très pauvre et par rapport aux standards européens, il faut bien le dire aussi, isolé, arriéré, manquant totalement de ressources. Et alors le gouvernement de la principauté se tourne vers le CICR en disant « Nous avons des blessés, nous avons tous ces réfugiés, venez nous aider !» La réaction du CICR est de se dire « Le CICR lui-même n'a pas de ressources hormis la générosité de ses membres, mais même s'ils ne craignent pas d'ouvrir leur porte-monnaie, ça ne mènera encore pas extrêmement loin. » Pour faire appel à la solidarité des sociétés nationales, le CICR aurait besoin qu'il y ait une société nationale au Monténégro, puisque dans la lecture, la compréhension du mouvement à l'époque, il s'agit d'une solidarité non pas directement avec les victimes, mais d'une solidarité entre les sociétés nationales. Or, il n'y a pas de Croix-Rouge au Monténégro. Donc le CICR ne peut pas lancer un appel aux sociétés nationales de Croix-Rouge par rapport au problème de blessés et de réfugiés au Monténégro. Et alors, où est la solution ? Ben, la solution, elle est très évidente. Il faut aller provoquer la création d'une société nationale au Monténégro, où probablement, jusque-là, on n'en a pratiquement pas entendu parler. C'est donc ça qui va amener cette mission, mais le CICR, avant de s'engager, pose encore une condition. Et il dit au gouvernement du Monténégro, oui, on est prêt à répondre à votre appel, oui, on est prêt à envoyer une mission pour vous aider à constituer une société de Croix-Rouge, mais avant ça, vous devez adhérer à la Convention de Genève. Pourquoi cette condition ? Eh bien, parce que les sociétés de Croix-Rouge sont les auxiliaires des services de santé et que c'est dans la Convention de Genève qu'on a le principe de base selon lequel les militaires blessés et malades seront recueillis et soignés à quelque nation qu'ils appartiennent. Donc le principe de l'impartialité dans les soins, qui est aussi un fondement de la Croix-Rouge, en vérité procède de la Convention de Genève. D'où cette pression que le CICR exerce sur le gouvernement monténégrin en disant « Vous devez d'abord adhérer à la Convention de Genève ». Alors le gouvernement du Monténégro ne se le fait pas lire deux fois, il adhère aussitôt, notifie au gouvernement suisse par une lettre du 29 novembre, et à ce moment-là, le CICR organise la mission. Si on lit les procès-verbaux du comité, il est intéressant de voir que bien avant cette date, bien sûr, le comité a débattu à plusieurs reprises de la situation au Monténégro et que déjà à ce moment-là, le nom du docteur Ferrière apparaît. Alors malheureusement, les procès-verbaux n'indiquent pas pourquoi. On pense au docteur Ferrière qui à ce moment-là est un jeune homme de 28 ans, mais il est médecin, il a donc entre la période 1871 et maintenant fait ses études, et puis surtout c'est quelqu'un qui a été au feu, il a cette expérience des situations de combat. Alors vous me direz pourquoi pas Appia ? Appia aurait pu aller, mais à ce moment-là, Appia est déjà un homme de 58 ans, le voyage était quand même difficile, périlleux, et peut-être peut-être qu'aux yeux de Gustave Moynier, Appia était par trop un franc-tireur et qu'un jeune médecin serait probablement plus discipliné, plus attentif aux instructions. On décide de lui adjoindre non pas un compagnon de voyage, dans un premier temps on avait prévu un compagnon de voyage, et puis on s'est dit, oui mais s'ils sont seulement deux et en désaccord, alors ça n'ira pas du tout. Donc il vaut beaucoup mieux lui adjoindre deux compagnons de voyage, parce que si on est trois, ben, il y a toujours une majorité qui se dégage au moment où il y a un choix difficile à faire. Et on lui adjoint un pharmacien, Charles Götz, et un botaniste, Alois Humbert. Pourquoi un botaniste? Eh bien, parce que ce monsieur parle serbe. Ne me demandez pas pourquoi, mais le fait est que lui parlait tout à fait couramment le serbe. Évidemment, pour descendre au Monténégro, ça rendait service. Les instructions que le comité donne à sa délégation: organiser l'assistance aux blessés d'une manière régulière et permanente. Aujourd'hui, on aurait dit durable. Et provoquer spécialement la formation d'une société de la Croix-Rouge, faire connaître la Convention de Genève et l'œuvre de la Croix-Rouge. Porter assistance aux combattants blessés et malades et subsidiairement aux autres réfugiés blessés et malades. Troisièmement, contribuer dans la mesure du possible à faire prévaloir les principes humanitaires de la Convention de Genève dans les hostilités en Herzégovine. Toutefois, ce point-là entrait en conflit avec le paragraphe 1 des instructions des délégués qui disait de se cantonner au territoire du Monténégro. Il ne part pas tout de suite parce que Ferrière a été malade quelques jours et c'est finalement le 28 décembre 1875 que nos trois délégués se mettent en route. Ils arrivent 10 jours plus tard dans la capitale du Monténégro, Cetinje, où le gouvernement leur a réservé le logement, un garde de corps, un interprète. Ils sont reçus le lendemain par le prince Nicolas, et qui les reçoit très très aimablement. Il s'occupe en première priorité de la constitution de cette société. On réunit quelques notables à qui on explique ce que c'est qu'une société de la Croix-Rouge, à qui on soumet des statuts qui, en vérité, ont été rédigés à l'avance à Genève par Gustave Moynier, ce qui montre que Gustave Moynier n'avait pas toujours exactement la même idée quand il s'agissait de l'indépendance des sociétés nationales. Et puis finalement, l'accord se fait très rapidement, les statuts sont adoptés pratiquement sans modification, et on organise une belle cérémonie pour marquer la naissance de la Croix-Rouge du Monténégro, à qui nos délégués remettent des drapeaux, des brassards que le CICR avait fait confectionner à Genève avant leur départ, ainsi que 3000 francs. Alors vous me direz, 3000 francs, c'est une somme symbolique aujourd'hui. Probablement qu'en termes de pouvoir d'achat, au Monténégro, vous pouvez ajouter sans doute 2 zéros à la somme ou quelque chose comme cela. Donc ça fait quand même une somme assez significative, mais on précise bien en 2 fois. Le CICR, cela permet au CICR, sans même attendre le retour de ses délégués, d'annoncer la constitution d'une Croix-Rouge du Monténégro, ce qu'il fait dans la 31e circulaire au comité central des sociétés de secours aux blessés, le 10 février 1876. Le texte libellé de cette circulaire est fort intéressant, il contient plusieurs éléments. Le premier est une espèce de ratio legis d'explication de la démarche du CICR. La Croix-Rouge étant une association de secours mutuel entre des sociétés nationales, elle ne pourrait intervenir au Monténégro qu'autant que ce pays posséderait lui-même une société basée sur les principes essentiels de l'œuvre. Donc on voit bien cette idée que, dans la perception de l'époque, la solidarité est une mutualité entre sociétés nationales qu'on ne peut pas venir en aide si on n'a pas ce partenaire national qu'il a fallu susciter. Le deuxième élément est intéressant, c'est que grâce au statut préparé par Gustave Moynier, cette société s'appelle Croix-Rouge du Monténégro, société monténégrine de la Croix-Rouge, à un moment où le titre officiel des dénominations de toutes les sociétés nationales et du CICR lui-même est encore Société de secours aux blessés, et où le CICR, au fond, cherche à obtenir des sociétés nationales qu'elles adoptent, qu'elles uniformisent cette dénomination beaucoup plus simple de Société de la Croix-Rouge qu'on a dans la société dissidente de Belgique, mais qui n'est pas la terminologie officielle. Donc, par rapport à cela, la nouvelle société du Monténégro, en quelque sorte, innove et indique la voie qui sera suivie par les autres. Et en conclusion, le CICR invite les sociétés à se mettre le plus vite possible en rapport avec la société monténégrine de la Croix-Rouge et à leur offrir une assistance fraternelle. En vérité, ça va très vite. La Croix-Rouge russe, qui était une société très importante sous l'Ancien Régime, était déjà en route avec un hôpital de campagne de 100 lits, 4 médecins, un pharmacien, 10 diaconesses. À une époque où au Monténégro, il y avait en tout et pour tout 3 médecins, dont 2 étaient des médecins autrichiens. Et la Croix-Rouge allemande alloue également une somme. Ça concerne le premier aspect de l'ordre de mission des délégués. Le deuxième aspect, secours aux blessés, eh bien le prince Nicolas va demander au docteur Ferrière, puisqu'il était médecin, d'aller mettre un peu d'ordre dans un hôpital tout à fait proche de la frontière. En vérité, ça représente 4 jours de marche depuis Cetinje pour rejoindre cet hôpital de San Luca. Ils étaient censés rester quelques jours. Finalement, Ferrière et le pharmacien Charles Götz y resteront 6 semaines pour réorganiser complètement cet hôpital qui apparemment en avait grand besoin. C'est un petit hôpital, il n'y avait qu'un petit nombre de blessés, mais problème, il y avait beaucoup de réfugiés. Et il est intéressant de voir qu'en quelque sorte Ferrière s'excuse d'être venu à l'aide également de réfugiés civils, ce qui montre qu'on avait une perception étroite du mandat. Notre position vis-à-vis de cette affluence énorme de malades n'a pas laissé d'être assez difficile. D'une part, nous tenions à rester dans les limites strictes de notre mandat. Et d'autre part, il était impossible de ne pas recevoir de pauvres malades venus de loin, non seulement avec la certitude d'être soignés, mais encore avec l'espoir d'être guéris, quels que fussent leurs maux. Donc, ils vont en vérité passer beaucoup plus de temps à s'occuper de ces réfugiés civils malades que des blessés en relativement petit nombre. Ils en soigneront plus de 300 et n'auront à déplorer qu'un seul décès d'une personne au demeurant très âgée, et ils laisseront le matériel important qu'ils avaient pris avec eux à disposition de ce petit hôpital perdu le long de la frontière. Sur le troisième point des instructions, exercer une influence sur la conduite de la guerre en Herzégovine, je crois qu'on doit admettre qu'ils n'auront aucun succès. Un entretien prévu avec le gouverneur turc de la province voisine sera finalement annulé et les délégués n'étaient pas autorisés à se rendre eux-mêmes ailleurs. À leur retour, contrairement à ce qui s'était passé avec les missions un peu sauvage ou privé du docteur Appia, le CICR publie le rapport de ses délégués et assure une large diffusion, donc confirme aussi par là le caractère tout à fait officiel. Alors quel a été l'impact de tout cela? L'objectif principal, la fondation de la Croix-Rouge, bien sûr, a été atteint. Est brillamment atteint, puisque cette société a été créée sur des bases durables. Elle a existé en tant que Croix-Rouge du Monténégro jusqu'à son intégration dans la Croix-Rouge yougoslave au lendemain de la Première Guerre mondiale, et puis elle est redevenue Croix-Rouge du Monténégro lors des événements, l'éclatement de la Yougoslavie que vous connaissez. Également aide aux blessés et aux réfugiés, diffusion, et ils ont pu parler de la Convention de Genève, qui a joué aussi un rôle important, puisque très peu après cette mission, le Monténégro lui-même a été entraîné dans la guerre. D'ailleurs, le prince Nicolas a adressé au CICR une lettre de remerciement très élogieuse sur ses délégués. Alors, deux questions. Le succès était-il dû au fait que La mission a été conduite par un médecin, Frédéric Ferrière, même s'il n'avait pas le titre, il n'y a pas le titre de chef de mission qui apparaît, mais il était clairement, les Anglais diraient, the driving force dans cet exercice. Ça aurait pu aussi se passer autrement. On voit l'action d'un Sidney Brown vis-à-vis de la Croix-Rouge éthiopienne dans les années 30. Sidney Brown n'était pas médecin, il s'est très bien débrouillé en jouant au fond le même rôle que Frédéric Ferrière avait joué vis-à-vis de la Croix-Rouge du Monténégro. En revanche, la réorganisation de l'hôpital de San Luca, toute l'assistance donnée aux blessés, etc., évidemment, le fait d'être un médecin était là un atout considérable. Puis alors la deuxième question qui est plus troublante, c'est de se dire si cette mission a été un succès, et à l'évidence elle l'était, alors pourquoi le CICR est-il resté dans la doctrine d'abstention que l'on trouve avant et que l'on constate également après, puisqu'il faudra attendre à nouveau plus de 30 ans pour que le CICR se décide à envoyer de nouvelles missions. Celle du docteur de Marval et du même Frédéric Ferrière lors des guerres balkaniques en 1912-1913, sans parler bien sûr des développements de la Première Guerre mondiale. Alors on pourrait être tenté de penser en premier lieu au légalisme de Gustave Moynier et sa vision très rigoureuse de l'interprétation des résolutions d'octobre 1863. Et c'est probablement pas tout à fait un hasard si justement, les deux missions suivantes, 1912-1913, se situent après le décès de Gustave Moynier. Mais de façon plus générale, je pense que c'est imputable à l'attitude de repli sur soi, ou disons sur l'acquis, du CICR après la guerre de 1870-1871, où on a constaté beaucoup de violations de la Convention de Genève, ça a débouché sur une remise en cause de la Convention elle-même, alors que probablement la cause principale de ces violations venait d'un défaut total d'instruction des troupes, en particulier du côté français. Et donc le CICR va au fond passer d'un rôle d'une institution dynamique, lançant des idées nouvelles, qui a été le cas pendant les premières années de son existence, vers un rôle de gardien du temple, de garant de l'orthodoxie, de protecteur de la Convention telle qu'elle est face à ceux qui demandent son abolition. Et il faudra, pour sortir de cette attitude défensive, en vérité une relève de génération et une nouvelle présidence avec la présidence de Gustave Adolphe. Et puis, dernier mot, un pacte en ce qui concerne Frédéric Ferrière lui-même, eh bien évidemment cette mission l'a certainement profondément marqué, ancré son intérêt pour les questions humanitaires, la médecine de guerre, et ce n'est pas étonnant si le même Frédéric Ferrière est coopté comme membre du Comité international de la Croix-Rouge le 13 mai 1884 et jouera à partir de là, exercera à partir de là son influence au sein même du Comité. Je vous remercie.
Merci beaucoup. J'invite François Pinot et Véronique Arouel à me rejoindre. Des questions?
Oui, moi j'ai une question. Ce matin, Monsieur Vignon, vous nous avez dit le peu d'empressement des médecins français de l'armée de l'Est à soigner leurs compatriotes quand ils se sont retrouvés en Suisse. Et du coup, en entendant Véronique Arouel tout à l'heure, je me disais, est-ce qu'il n'y a pas un rapport avec ce sentiment de non-reconnaissance, de dévalorisation, etc., des médecins à la même époque? Est-ce qu'on peut faire une relation entre les deux choses, ou comment est-ce qu'on peut expliquer sinon le fait que les médecins français étaient si peu empressés en 1870 à s'occuper de leurs compatriotes?
Oui, surtout les médecins militaires français étaient très très mal organisés. Oui, les médecins militaires français étaient très très mal organisés. En outre, ils ne connaissaient pas, pratiquement pas la Convention de 1863, ni même la Croix-Rouge. Et très souvent, ils ne portaient pas le brassard de la Croix-Rouge, parce que le ministre de la Guerre était opposé aux opinions, aux idées de Dunant.
Merci. Donc moi, je n'ai fait que citer les sources. Je n'étais pas aux Verrières en 1870 ou 71. Mais je suis quand même frappé par le fait que le major Daval, qui établit au nom du département militaire le rapport officiel sur toute cette opération, qui est un rapport détaillé, ça fait 300 pages, bien écrit, mentionne à plusieurs reprises ses critiques. Cela transparaît aussi dans les procès-verbaux du comité et cela transparaît dans la presse. Daval, lui, a une explication très claire. Il pense que c'est lié au régime aristocratique et le fossé que ça crée entre une partie de la population et les troupiers, le petit peuple, etc. C'est un élément, un deuxième élément d'explication, à mon avis, très fort, est lié à la subordination à l'intendance. Et le fait que l'intendance, ben, c'est une bureaucratie qui suit son chemin avec un énorme manque de flexibilité. Et je pense que parmi les gens qui ont fait du service militaire, peu nombreux sont ceux qui me contrediront.
Bon, j'ai une question pour François Bougnon. Comme vous avez bien dit, la solidarité de la Croix-Rouge à cette époque, c'était une solidarité entre des sociétés nationales. Et finalement, on a créé une société nationale à Monténégro, mais ce n'était pas, comme vous avez dit, une nation indépendante, parce qu'il y avait un lien de dépendance avec l'Empire ottoman. Donc, il n'y a pas peut-être une protestation de la part de l'Empire ottoman. Il n'a pas considéré comme une intervention pas tout à fait autorisée. Et une autre chose, parce que normalement, l'Empire ottoman avait ratifié, avait signé la Convention de Genève, mais il n'existait pas un croissant rouge ottoman encore. Mais je ne sais pas si le gouvernement ottoman a pensé quelque chose pour intervenir à cette question avec sa propre société nationale.
Merci. Alors, en ce qui concerne le premier point, l'Empire ottoman a réagi très fermement par rapport à l'adhésion du Monténégro à la Convention de Genève, en disant le Monténégro est une... Et il a réagi de la même façon quand la Serbie a adhéré ou accédé, en disant le Monténégro est une province de l'Empire, donc le dépositaire, la Suisse, agissant en qualité de dépositaire, n'avait pas à accepter cette adhésion. C'est une protestation qui a été faite, elle est dans le domaine public, ça n'a pas remis en cause cette adhésion. Je n'ai pas souvenir que le gouvernement ottoman, que la Sublime Porte, ait réagi négativement à la circulaire du CICR annonçant la création d'une Croix-Rouge au Monténégro. Ça, je n'ai pas le souvenir. Et puis, en ce qui concerne une société nationale ottomane, donc il y avait une société ottomane créée sous la présidence du docteur Abdullah Bey déjà dans les années 1860. Simplement, au moment où ce docteur Abdullah Bey décède, cette société elle est tombée en léthargie, il n'y avait plus de dynamique derrière, et puis elle se très certainement, elle utilisait l'emblème de la Croix-Rouge. Contrairement à ce qui est la position officielle du Croissant Rouge sur ce point aujourd'hui. Et puis cette société se recrée avec l'emblème du Croissant Rouge à peu près à ce moment-là, en 1876. Parce que l'insurrection en Herzégovine, on a très vite compris que la guerre n'allait pas se limiter à ça. Effectivement, il y a eu ensuite un énorme soulèvement en Bulgarie, donc ça concernait une population et un territoire beaucoup plus vaste. Et puis, assez rapidement, la Serbie et le Monténégro ont dit « nous ne pouvons pas supporter ce qui se passe à nos frontières ». Donc ces deux pays sont entrés dans la guerre pour soutenir les insurgés bulgares, bosniaques, herzégovinois. Et puis, à partir de là, l'Empire russe a dit « nous ne pouvons pas laisser sans défense nous protéger ». Donc, ça a mené une guerre beaucoup plus vaste qui a embrasé tous les Balkans et tout le Caucase. Voilà.
J'aurais une question pour Véronique Arouel concernant les démarches en vue d'un statut d'indépendance du corps médical français. Tu nous as parlé des médecins, tu nous as parlé des hommes politiques. Est-ce que les trois sociétés de la Croix-Rouge, parce qu'il y en avait, je crois, trois en France, à ce moment-là, sont aussi intervenues? Parce qu'ils ne pouvaient être que bénéficiaires d'une amélioration du statut des médecins.
À ma connaissance, non. Maintenant, simplement, je pense que les médecins et les chirurgiens qui ont été à la tête d'ambulances de la société de secours durant la guerre franco-allemande ont montré l'intérêt, enfin l'importance de diriger eux-mêmes une ambulance. Donc indirectement, les sociétés de secours ont œuvré en ce sens. Mais dans le bulletin, non, je n'ai rien vu, pas de discours de plaidoirie en faveur de l'autonomie.
Je ne me souviens plus des questions, des commentaires. Je vous rappelle qu'à 6h30, c'est-à-dire dans une heure, on a rendez-vous au centre médical universitaire, à la salle A250, pour la conférence « Les soins de santé en danger, un défi pour le 21e siècle » qui donnera Bruce et Saya Chauvin, conseiller médical du projet et du comité international de la Croix-Rouge. Merci.
Quelques éléments d'intendance. Le premier, un grand merci à celles et à ceux qui ont mis leurs griffes ou un petit mot en plus, c'est un dessert pour nous, dans le livre d'or. Je pense que quelques personnes n'ont pas encore eu l'occasion de le faire. S'il vous plaît, faites-le. Je vous rappelle que nous avons un magnifique volume qui est sorti et n'hésitez pas à vous adresser à la table. Et puis, j'ai une communication relativement importante par rapport à demain. Parce que malheureusement, notre ami Philippe Binder a dû être hospitalisé ce matin en urgence. De sorte qu'il ne pourra pas être là demain parmi nous. Et j'ai essayé d'avoir des nouvelles de sa santé. Je n'en ai pas, mais il m'a quand même répondu. Donc ça veut dire qu'il peut lire, écrire, etc. Et il m'a simplement dit, c'est en ordre pour les textes, c'est-à-dire qu'il nous enverra ses textes. On voit donc que ça le turlupine aussi. Alors, j'ai eu une conversation très intéressante avec Marianne Moser-Jones, qui nous fait l'honneur de traverser l'Atlantique pour venir nous parler de Clara Barton. Donc c'est un effort fantastique qu'elle fait. Et je prie les autres membres du comité scientifique à qui je n'ai pas pu en parler de m'excuser, mais je lui ai demandé si elle aurait de quoi nous parler en deux temps de Clara Barton. Clara Barton, c'est aussi un des géants fondateurs du mouvement, chez nous, très mal connu. Alors, j'ai vu les yeux de Marianne briller de mille étoiles. Et donc, parce qu'elle aurait ainsi la possibilité de nous présenter Clara Barton en deux temps. C'est-à-dire qu'elle aurait un peu plus de temps pour, disons, bien développer des aspects qui le méritent. Alors, c'est un petit peu un happening, je vous prie de m'excuser, parce qu'il faut que les membres du conseil scientifique s'expriment aussi. oui, je suis navré, mais on fait les choses comme ça, parce que c'est comme ça qu'on trouve les solutions les plus démocratiques. D'un côté, François Bugnon, très gentiment, nous a annoncé qu'il avait déjà travaillé aussi le problème que Philippe Binder allait présenter l'après-midi, c'est-à-dire les médecins et ambulances de la Croix-Rouge suisse lors des guerres balkaniques, c'est juste?
Moi, je parlais uniquement du docteur Manama.
Oui, mais ce serait très bien. Alors, on aurait cette solution pour l'après-midi. Et alors, je me demandais, est-ce que Marianne, ça vous va aussi de parler le matin? Ou est-ce que... Très bien. Alors, dans ce cas-là, si vous avez votre programme, et sauf si l'un des membres du comité scientifique pense autrement et naturellement qu'à ce moment-là, on peut pas discuter. Donc, le numéro 13, si j'ose dire ainsi, il faudra mettre Marianne Moser-Jones, qui nous parlera de la première... premier volet de son exposé sur Clara Barton. Le reste de la matinée est inchangé. L'après-midi, nous aurons deux changements, parce que M. Andrés Vera doit prendre un avion à 16h40, 18h40, ou une chose comme ça. Alors, il parlera le premier l'après-midi, pour qu'il soit plus libre. Et puis ensuite, eh bien, François Bugnon veut bien nous parler du docteur Karl de Marneval en mission dans les guerres balkaniques de 1912-13. Et puis la suite ne sera pas changée. Est-ce que pour les membres du conseil scientifique, ça joue? Ça joue. Marianne, ça joue. Formidable. Alors, dans ce cas-là, est-ce que quelqu'un d'autre veut encore prendre la parole? Non? Alors, à tout à l'heure, j'espère que vous viendrez tous pour cette exposé. J'ai été reçu par le docteur Eshaya Chauvin pour parler de son exposé. Je vous promets que c'est une actualisation de la problématique Croix-Rouge qui est assez captivante, fascinante et inquiétante. Je vous remercie.